L'invité du grand entretien ce matin est Bertrand Piccard, médecin psychiatre, explorateur. En 2016, il a réalisé le tour du monde avec son avion solaire Solar Impulse. Sa fondation Solar Impulse travaille à des solutions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Et cette année donc, il représente la société civile au G7 de Biarritz qui ouvre aujourd'hui. Bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour.
Hier, vous étiez à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron et parler de votre participation au G7. Vous n'étiez pas seul, mais qu'est-ce qui s'est dit exactement hier ?
En fait, le président Macron a dit qu'il avait besoin du soutien des entreprises, de la société civile et des ONG, de manière à pouvoir faire passer ces messages et les rendre totalement concrets. Il dit bien, moi j'ai envie de le faire, mais je peux pas le faire seul. Alors en France, il a besoin de tout ce soutien, et puis à l'étranger, il a besoin de coalition. Et le but de ma participation, c'est de créer ou d'aider à créer une coalition autour d'un transport maritime beaucoup plus propre.
Alors on va y venir au transport maritime, mais ma question aussi, elle pose, est-ce qu'il était question hier de la forêt qui brûle au Brésil ?
Alors, il en a été question, et le président Macron a été ardemment félicité par tout le monde pour son tweet en disant qu'il ne signerait pas le Mercosur si la situation restait comme elle est aujourd'hui avec la forêt amazonienne. Et ça, c'est très, très courageux. Vous savez, moi, je vais vous dire qu'il y a quelques années, une de mes amies a appelé le premier ministre de l'époque, qu'elle connaissait bien, pour lui dire que le chef amazonien Raoni était en France et qu'il devait absolument être reçu de manière officielle. Et le premier ministre de l'époque lui a répondu « Tu n'y penses pas, on est en train d'essayer de vendre des avions de combat au Brésil ». Donc voilà où on en était il y a quelques années. Et maintenant, on en est à un stade complètement différent où le président de la République prend des responsabilités et assume clairement des positions. Et ça, je trouve absolument remarquable.
Et en même temps, les accords, il a dit qu'il s'opposait à l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud,
oui, le Mercosur. Oui.
Ces accords de libre-échange, ce sont des accords qui sont à chaque fois gros producteurs de carbone. Donc il y a du sens aussi.
Vous savez, ces échanges, ils sont bons dans le sens où supprimer des droits de douane favorise également un accès de certains producteurs un peu pauvres à des marchés plus riches. Donc c'est pas entièrement mauvais. Ce qui est extrêmement mauvais par contre, c'est qu'on ne peut pas filtrer les importations. On doit tout prendre, c'est un peu du tout ou rien. On peut pas dire ce qui vient de la forêt amazonienne, partie défrichée sera refusée et ce qui vient d'une production industrielle beaucoup plus respectueuse de l'environnement sera accepté. Et c'est là que ces accords blessent finalement.
Quand Emmanuel Macron dit « j'ai besoin de vous », les acteurs de la société civile, entrepreneurs ou des gens comme vous, on en est là aujourd'hui ?
Mais c'est remarquable qu'on en soit là. Parce que autrefois, les politiques parlaient et ne faisaient rien. Aujourd'hui, on est à un stade où les politiques veulent agir. Alors, c'est vrai que quand on agit tout seul, on tombe dans la crise des gilets jaunes. Maintenant, le gouvernement français veut vraiment agir de concert avec toute la société française et les entreprises. Et ce qui était remarquable hier, c'était de voir les engagements des entreprises. François-Henri Pinault, qui a levé une coalition dans la mode pour être beaucoup plus propre sur le plan environnemental. Emmanuel Faber de Danone, qui a présenté tout un groupe d'entrepreneurs français, des milliers de milliards de chiffres d'affaires tous ensemble, des millions d'emplois, avec des engagements très très clairs en faveur de l'environnement. Donc ça change. Et toute cette, je dirais, toute cette bonne volonté-là, elle va pouvoir permettre au pouvoir politique d'agir beaucoup plus.
Dans une tribune que vous avez écrite cette semaine, Bertrand Piccard, vous dites « les politiques ne se rendent pas compte ». Vous êtes assez critique quand même sur les politiques.
Oui, les politiques en général, absolument. Je parlais dans cette tribune des inégalités. Les inégalités dans le monde ne sont pas seulement moralement inacceptables. Laisser des gens derrière, croupir dans des conditions de pauvreté extrême, c'est inacceptable moralement. Mais c'est également complètement stupide sur le plan capitaliste, parce que c'est des clients en moins. Donc c'est stupide. Et en plus de ça, c'est dangereux, extrêmement dangereux, parce que les gens qui n'ont plus rien à perdre se révoltent. Quand j'étais la dernière fois à Sao Paulo, au Brésil, j'ai vu le quartier des riches. Mais le quartier des riches est barricadé avec des miradors, des projecteurs et des fils de fer barbelés électrifiés pour se protéger contre les pauvres. Mais vous rendez compte où ils en sont arrivés ? Les inégalités se retournent de toute façon finalement contre les riches. Donc c'est dangereux et stupide de maintenir ces inégalités. Et ces inégalités, elles viennent de quoi ? Elles viennent de l'ultralibéralisme qui consiste à écraser les prix, écraser les salaires, faire le maximum de profit à court terme. Et ça, c'est hyper dangereux. Et le président Macron l'a dit hier, très clairement. Il a dit le capitalisme est devenu fou et il faut maintenant qu'il arrive à gérer les inégalités qu'il a créées parce qu'il n'y arrive pas en ce moment.
Alors précisément, vous, quel va être votre rôle à Biarritz ?
Moi, je vais parler à Biarritz de la nécessité de créer une coalition internationale, d'un maximum de pays possible, autour d'un transport maritime beaucoup plus propre. Et je vous donne un exemple. Si vous réduisez de 20% la vitesse des bateaux, vous avez 34% de diminution de gaz à effet de serre. Mais c'est absolument colossal. Et ça peut se faire tout de suite. Mais c'est clair que si vous avez des entreprises qui veulent aller le plus vite possible pour concurrencer les autres, eh ben on n'y arrivera pas. Donc, vous avez l'Association du transport maritime français qui a pris un engagement très très important avec l'initiative qui s'appelle Sails. Et ils veulent être à la pointe du shipping, enfin, du transport maritime propre. Mais ça suffit pas parce qu'il y a tous les autres pays. Alors ceux qui résistent, ceux qui ne veulent pas entrer dans cette alliance, eh ben ils doivent être forcés par des réglementations internationales. C'est toujours la même chose parce que sinon on obtient une distorsion de concurrence. Et c'est ce qui est le plus dangereux dans le commerce. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne prennent pas les mesures qu'il faut sur le plan environnemental parce qu'ils ont peur des distorsions de concurrence. Donc vous avez des initiatives privées qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Mais ensuite, pour ceux qui n'entrent pas dans cette logique et qui ne veulent pas jouer le jeu, eh ben, il faut des réglementations contraignantes.
Quelque part, il faut montrer du doigt ceux qui ne font pas comme il faut.
Bon, la période du pilori est terminée. Donc le but, c'est pas de punir ceux qui font faux, c'est par contre de mettre des réglementations qui obligent ceux qui font faux à faire mieux. Et la réglementation internationale manque. On est aujourd'hui laxiste dans les réglementations. On autorise en fait des carburants extrêmement polluants, archaïques, hein, des carburants à peine raffinés qui polluent énormément. On autorise les bateaux à être dans des états de délabrement épouvantables, de payer des salaires de misère aux marins. En fait, on marche sur la tête. On voit le court terme. Et maintenant, ce qu'il faut absolument, c'est mettre en scène toutes les mesures qui permettent d'être plus propres dans tous les domaines. Et c'est pas simplement les gens de bonne volonté qui y arriveront, parce qu'il y a beaucoup de gens égoïstes et court-termistes. Donc il faut des gouvernements, il faut des lois internationales beaucoup plus modernes qui interdisent les comportements les plus nocifs et qui encouragent les technologies modernes à se mettre en œuvre. Par exemple, des bateaux avec du gaz naturel liquéfié qui est infiniment plus propre.
Et en même temps, Bertrand Piccard, vous dites que les réglementations sont lourdes, compliquées aussi.
Mais les réglementations, elles sont. Je n'ai pas dit qu'elles étaient lourdes et compliquées, j'ai dit qu'elles étaient archaïques et démodées. Et qu'elles permettent ce qui ne devrait pas être permis et qu'elles n'encouragent pas ce qui devrait être obligatoire.
Mais le temps du politique pour la réglementation, ce n'est pas le temps de l'urgence aujourd'hui. Et c'est ça la difficulté, non ?
Alors, c'est pour ça que le président Macron est entré dans une logique qui est différente. Au lieu de créer un consensus international, unanime, qui n'arrivera jamais, il crée des coalitions entre ceux qui sont d'accord d'avancer. Et alors, dans la coalition maritime, il y aura peut-être 50 pays. Il n'y aura peut-être pas les 190 tout de suite. Mais s'il y en a 50, c'est déjà mieux que s'il n'y avait pas les 50.
Bertrand Piccard, médecin psychiatre explorateur, patron de la fondation Solar Impulse, participe au G7 de Biarritz. Il est l'invité du grand entretien ce matin sur France Inter. Bertrand Piccard, vous prenez aussi la décarbonisation pour les mobilités, c'est-à-dire une mobilité propre pour tout le monde. Comment on fait concrètement ?
Eh bien, on comprend que la voiture électrique, ce n'est pas une voiture avec une batterie, c'est une batterie avec des roues, ce qui est très différent. Parce que la batterie avec des roues, elle vous permet de vous déplacer quand vous voulez, mais il ne faut pas oublier que 95% du temps, elle ne roule pas votre voiture. Donc c'est une batterie qui est au service de tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut être chargé quand il y a beaucoup d'énergie solaire, beaucoup d'énergie éolienne, beaucoup d'énergie propre, et puis qui peut être déchargé sur le réseau électrique pour tamponner le réseau au moment des pics de consommation. Et si on a tous une mobilité électrique au service de la communauté de cette manière-là, on peut baisser les besoins de production d'un pays de 30%. Simplement en coupant les pics de consommation. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse le strict cadre de la mobilité. On voit qu'il faut être systémique, comme on dit. Il faut avoir cette vision globale qui permet d'interconnecter tous les secteurs.
Mais ça, ce sont toujours des mots. La question, c'est concrètement sur le terrain, comment nous, on le voit ?
Alors, ce n'est pas du tout des mots. Moi, j'ai une voiture électrique. J'ai une Hyundai Kona, 100% électrique.
La marque.
j'ai des panneaux solaires chez moi. j'ai une maison entièrement isolée et j'ai des pompes à chaleur. Donc, j'applique moi-même toutes ces notions et ce que je vois, c'est que ma facture énergétique est beaucoup, beaucoup plus basse que si j'utilisais des énergies fossiles.
Mais ça, c'est un coût.
Ah, puisque c'est un investissement, ce n'est pas un coût. Le coût, c'est quand votre argent est perdu. L'investissement, c'est quand vous mettez de l'argent et que vous allez en recevoir plus après. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que les énergies renouvelables sont moins chères que les énergies fossiles, que la mobilité électrique est concurrentielle, que des pompes à chaleur sont 4 fois plus efficientes que des radiateurs à résistance. Vous avez maintenant la possibilité d'économiser de l'argent ou de gagner de l'argent en isolant votre maison et en participant à la transition énergétique. Et ça, c'est nouveau. Alors, je n'aurais pas pu vous faire ce discours il y a 5-6 ans. Je vous aurais dit, ça nécessite des subventions, c'est très cher, il faut sauver la planète au détriment du porte-monnaie. Non, aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, le marché industriel du siècle consiste à remplacer toutes les vieilles infrastructures démodées, inefficientes et polluantes par des systèmes qui sont propres, efficients et modernes. Et ça, ça crée des emplois, ça permet de gagner de l'argent.
Vous croyez à une croissance durable, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcément contre le libéralisme ou le capitalisme, mais à bon escient plutôt?
Alors, j'utilise les arguments capitalistes pour convaincre les capitalistes d'entrer dans une logique environnementale.
Et ça marche?
Mais écoutez, ça marche si on leur dit que c'est plus rentable que les systèmes d'autrefois. Il faut parler leur langage. Et vous savez, aujourd'hui, on a le choix, c'est un peu un choix illusoire, entre la décroissance qui amènera au chaos social et la croissance quantitative, comme on l'a aujourd'hui, qui amène au chaos environnemental. Il y a une troisième voie. Pour moi, c'est la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est quand on peut créer des emplois et gagner de l'argent en remplaçant ce qui est polluant par quelque chose de beaucoup plus propre qui protège l'environnement. Et ça, aujourd'hui, c'est possible grâce aux nouvelles technologies.
Et vous dites quoi? Qu'il faut arrêter d'opposer en fait les industriels polluants d'un côté et les écologistes de l'autre?
Mais oui, parce qu'aucun des deux ne va pouvoir gagner. Ceux qui vont pouvoir gagner, c'est ceux qui sont au milieu et qui remplacent justement tout ce qui pollue par des choses propres. Et ça, aujourd'hui, c'est rentable, ça crée des emplois. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est le marché industriel du siècle. C'est là qu'on peut placer de l'argent. Vous avez des entreprises maintenant où vous pouvez placer de l'argent beaucoup mieux que dans une banque. Et c'est des sociétés qui placent des panneaux solaires sur des hangars, sur des serres agricoles, sur des ateliers, sur des usines, et qui revendent cette énergie électrique solaire. Et ils gagnent plus d'argent que ceux qui négocient du pétrole. Donc c'est une nouvelle... C'est une nouvelle époque qui a commencé, mais il y a très très peu de gens qui l'ont compris.
Bertrand Piccard, pour avoir des batteries électriques, pour avoir des panneaux solaires, on utilise aussi le côté fossile, le côté minier, qui n'est pas forcément bon pour l'environnement. Donc ça pose aussi question pour l'avenir de ça.
Alors, mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux quelques mines de cobalt en plus que quelques degrés en plus dans l'atmosphère. Parce que toute l'exploitation minière, c'est local. Ça peut être contrôlé par des règlements internationaux, environnementaux et sociaux. On peut refuser d'acheter des matériaux, des ressources naturelles qui viennent de pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Donc finalement, ça peut être géré. C'est gérable sur le plan local. Les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique en général, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Ça étouffe tout le monde et l'humanité court à sa perte. Donc il faut tout faire pour transposer la pollution mondiale, globale, incontrôlable à une pollution locale qui est contrôlable et gérable.
Vous comprenez, Bertrand Piccard, la position ou l'attitude des ONG du réseau Action Climat qui a décidé ou qui ont décidé plutôt de ne pas venir à Biarritz?
Alors, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait s'exprimer. Vous savez, ce que je vais dire à Biarritz, c'est finalement probablement très proche de ce que ces ONG qui boycottent Biarritz auraient voulu dire. La seule chose, c'est que moi, je le fais dans le cadre du système et les chefs d'État vont m'écouter plutôt que de boycotter et de ne pas faire passer le message.
Alors, certains vont vous écouter, d'autres sont carrément climato-sceptiques et pour ne pas parler de Donald Trump, par exemple.
Mais Donald Trump, c'est mon benchmark.
Benchmark,
c'est mon point de repère, c'est comme on dit. C'est-à-dire, chaque fois que j'étudie une théorie, que je vois une technologie, que je pense à des manières de protéger l'environnement, je me dis dans ma tête, que dirait Donald Trump si je lui en parlais?
Ah oui?
Et je vois bien qu'il y a des tas de choses qui vont dans son sens. Si les énergies renouvelables deviennent moins chères que les énergies fossiles et créent plus d'emplois, eh bien c'est bon pour l'Amérique. Ça va « make America great again ». Vous avez des tas de manières maintenant dans l'efficience énergétique de faire des programmes de grande échelle, notamment isoler les bâtiments, avoir des airs conditionnés plus efficients, etc. Tout ça, c'est bon pour l'Amérique. C'est bon pour Donald Trump, c'est bon pour ses électeurs, c'est indépendant de l'environnement. En fait, j'essaie toujours de voir si les changements climatiques n'existaient pas et que les climato-sceptiques avaient raison, qu'est-ce qui serait logique, à défaut d'être écologique, qu'est-ce qui serait logique de faire pour être plus efficient, pour arrêter de gaspiller de l'argent dans un chauffage de maison mal isolée, dans des voitures qui consomment trop, etc. Qu'est-ce qui serait logique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement l'an dernier en France, à la même époque, fin août, parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas. Alors, vous parlez de Donald Trump, mais effectivement, en France, vous parlez du changement d'attitude d'Emmanuel Macron, mais lui disait « je n'y arrive pas ». Donc j'arrête.
Alors vous savez, moi j'aime beaucoup Nicolas Hulot, je le connais depuis 40 ans ou 35 ans. Et il y a une phrase terrible qui a été dite par Chevènement autrefois et qu'il faut absolument abolir. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ça ne doit pas être ça. Un ministre, ça doit ouvrir sa gueule et rester en place. Nicolas Hulot, sur France Inter, a fait un discours extraordinaire le jour où il a démissionné. Extraordinaire. Je ne sais pas qui s'en rappelle. Imaginez que tous les matins, il ait fait ce discours-là en restant ministre et qu'il avait dit à la population « j'ai besoin de votre soutien, écrivez des lettres de soutien, encouragez-moi, écrivez au gouvernement, écrivez au ministre de l'Agriculture qui me fait des misères pour dire que vous soutenez ma politique environnementale ». Mais s'il avait fait ça, ça aurait été un raz-de-marée de soutien en sa faveur pour l'environnement et on aurait gagné énormément de temps.
Bertrand Piccard, 3 ans après l'aventure de Solar Impulse, en dehors de vos engagements, vous avez un nouveau projet aussi fou que Solar Impulse?
Alors aussi fou, oui, encore plus utile, mais beaucoup moins spectaculaire.
Et ce sera?
En fait, avec ma fondation Solar Impulse, en ce moment, on est en train de sélectionner 1000 solutions qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Et on les expertise avec des experts indépendants, on les labellise, Solar Impulse Efficient Solution, et ensuite on les promeut et on les amène au gouvernement, on les amène aux entreprises en leur disant voilà de quoi avoir les outils pour mener une politique environnementale, énergétique beaucoup plus ambitieuse. Donc il y aura un troisième tour du monde, ce sera avec ce portfolio des 1000 solutions, pour aller revoir tous les chefs d'État et leur dire voilà comment vous pouvez faire, pour avancer beaucoup, beaucoup plus vite.
Merci Bertrand Piccard d'avoir été l'invité ce matin du grand entretien de France Inter.
Avec plaisir, merci pour votre invitation.